Et vous écoutez France Inter, voici le journal Alexis Demeyer. Bonjour Alexis.
Bonjour. Donald Trump se rendra demain au Texas pour rendre hommage aux 22 victimes de la tuerie d'El Paso. Le président américain qui a condamné hier le racisme et le suprémacisme blanc, mais sans parvenir à éteindre les critiques du camp démocrate. Nous irons à El Paso dès le début de ce journal. L'agence Frontex a-t-elle fermé les yeux sur des agressions de migrants ? L'agence européenne de surveillance des frontières est au cœur d'une enquête choc publiée aujourd'hui par plusieurs médias européens. La maladie des rats a contaminé 3 baigneurs le week-end dernier en Haute-Saône, mais on l'entendra, certains continuent de se baigner dans la rivière infectée par le germe de la leptospirose qui peut être mortelle. Et puis une grande exposition Berthe Morisot au musée d'Orsay jusqu'à fin septembre. La peintre impressionniste qui avait dû faire face à de nombreuses critiques misogynes dans les années 1870.
Notre invité à 8h moins le quart sur France Inter, Aurélien Pradier, député Les Républicains du Lot, Les Républicains qui vont élire un nouveau président pour leur parti en octobre et qui sont à la recherche d'une nouvelle stratégie politique.
France Inter.
Donald Trump à El Paso demain, 4 jours après la tuerie devant le supermarché Walmart de la ville texane. Le président américain pourrait bien recevoir un accueil compliqué puisque plusieurs porte-parole des communautés hispaniques aux États-Unis l'accusent d'alimenter le racisme. Pour tenter de calmer la polémique, Donald Trump avait tenu hier à condamner le racisme et le suprémacisme blanc. Le bilan de la tuerie d'El Paso s'est alourdi hier. Il est désormais de 22 morts, dont 8 Mexicains, mais aussi des Américains d'origine mexicaine. Le chef de la diplomatie mexicaine qui s'est rendu sur les lieux de la fusillade cette nuit, parle d'ailleurs d'un acte de terrorisme contre les Mexicains. À El Paso, l'envoyé spécial de France Inter, Grégory Phillips, a rencontré un homme qui, depuis le massacre de Columbine en 1999, se rend sur les lieux des tueries de masse pour y construire des mémoriaux. Reportage.
Greg Zanis raconte que sa vie a été bouleversée ce soir de janvier 96, quand il a retrouvé à son domicile le corps sans vie de sa femme, assassinée de plusieurs balles par un inconnu. L'ébéniste crée alors l'association Crosses for Losses, des croix pour nos disparus. Et depuis, à chaque fusillade ou presque, il quitte la banlieue de Chicago où il habite pour se rendre à bord de son pick-up sur les lieux du drame, où il dépose des croix blanches, une par victime, pour créer un mémorial. Je suis ici à El Paso, c'est une famille qui m'a invité. Samedi et dimanche, j'ai conduit plus de 2000 km. Et sur la route, j'apprends qu'il y a eu une autre fusillade. Mais on ne va pas laisser ces meurtriers nous dicter qui nous sommes. Vous savez, en Amérique, nous savons surmonter les épreuves. Tout en montant ses croix, Greg Zanis a écouté d'une oreille lointaine l'adresse à la nation de Donald Trump. Mais l'ébéniste bénévole est très pessimiste. J'arrêterai de faire ça le jour où j'arrêterai. Mais ces fusillades vont continuer, c'est certain. Moi, je pense que l'Amérique est frappée par un cancer qui est incurable. Depuis qu'il a créé son association, Greg Zanis a construit 26 804 croix à travers tout le pays et sur différents terrains de catastrophe. Près de 22 000 de ces croix ont été érigées à la mémoire de personnes tuées par balles. El Paso, Grégory Phillips, France Inter.
Un nouvel épisode de la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine. Le yuan, la monnaie chinoise, est à son plus bas niveau depuis la crise financière de 2008 et Washington accuse Pékin de manipuler sa monnaie, ce qui serait, selon le secrétaire américain au Trésor, une violation des engagements chinois pris lors du dernier sommet du G20.
La crise migratoire en Europe, à nouveau à la une de l'actualité ce mardi.
Oui, l'agence Frontex, chargée des frontières extérieures de l'UE, est accusée d'avoir toléré des actes de maltraitance sur des migrants en Grèce, en Bulgarie et en Hongrie. Révélation de plusieurs médias européens, notamment le Guardian et la chaîne allemande ARD. Les journalistes qui ont mené l'enquête se sont appuyés sur des centaines de documents confidentiels de Frontex. L'agence fermerait donc régulièrement les yeux sur des violations des droits de l'homme commises par des policiers locaux, mais aussi par quelques-uns des 1500 fonctionnaires européens chargés de surveiller les frontières. Notre correspondant à Berlin, David Philippot, a pu voir quelques extraits du reportage qui sera diffusé ce soir à la télévision allemande.
Sur les images de la première chaîne publique, on suit deux policiers allemands patrouiller le long de la frontière entre la Grèce et l'Albanie pour détecter tout mouvement suspect, rien à signaler. Les journalistes ont également consulté des centaines de rapports internes de l'agence Frontex.
Dont des plaintes contre des douaniers nationaux de Grèce ou de Hongrie, utilisation excessive de la force, coups portés avec des barbelés, mauvais traitements, chasse contre des réfugiés avec des chiens.
Des pratiques que Frontex ne parvient pas à enrayer, le porte-parole de l'agence, Christophe Borowski.
Le mécanisme prévu, c'est que nous entrons en contact avec l'État concerné
pour discuter des cas en question. Il y a des conséquences potentielles. Nous pourrions stopper si nécessaire.
Vous l'avez déjà fait ?
Non.
Les investigations des trois médias démontrent que les agents de Frontex enfreignent eux-mêmes les règles européennes en expulsant par exemple des mineurs, accusation catégoriquement démentie par l'agence basée à Varsovie. Berlin, David Philippot pour France Inter.
Nous sommes à 7 mois maintenant des élections municipales. L'occasion cette semaine sur France Inter de faire le point chaque jour sur quelques-unes des villes clés de ce scrutin. Après Nice, hier, on s'intéresse ce matin à Lille, la capitale des Hauts-de-France. La sortante Martine Aubry n'a pas dit pour le moment si elle comptait se représenter, mais les opposants à la socialiste sont eux déjà dans les starting blocks, et notamment la candidate du parti présidentiel, Cyril Graziani.
C'est peu dire qu'elles se connaissent bien. Martine Aubry n'a pas encore fait part de sa décision de briguer un quatrième mandat. Il y a peu de surprises, mais si la maire de Lille décide de redescendre dans l'arène, elle fera face ni plus ni moins qu'à son ancienne chef de cabinet, Violette Spibou, aujourd'hui représentante de La République En Marche, qui l'a accompagnée de 2008 à 2013. Mais pour la majorité présidentielle, le terrain n'est pas que parsemé de roses. La primaire qui a opposé Spibou à la députée LREM Valérie Petit, proche de Gérald Darmanin, a laissé des traces. Avec ce choix, ça veut dire qu'ils ont fait une croix sur Lille et qu'ils ne pensent pas pouvoir battre Aubry, résumait il y a peu un ténor de la région. Mais dans l'ancien fief de Pierre Mauroy, Martine Aubry, elle aussi n'est plus vraiment en territoire conquis. Si elle se méfie de sa droite, la maire de Lille regarde surtout à sa gauche. La France insoumise en 2007 a réalisé des scores tonitruants. Et surtout aux dernières européennes, les écologistes ont talonné La République En Marche. La guerre de Lille n'échappera donc pas aux problématiques environnementales.
Alerte à la leptospirose en Haute-Saône, cette infection sur nommée la maladie des rats, a contaminé trois jeunes qui se baignaient dans la rivière Ognon près de Dijon. L'état de ces trois baigneurs est qualifié de stationnaire. La leptospirose est une maladie qui se développe dans des zones de rejet des eaux usées où prolifèrent les rats gondins qui contaminent l'eau avec leur urine. Le reportage de Virginie Vandeville de France Bleu Besançon.
Une situation très inquiétante pour la base nautique de Pemmes, selon Mathéo, son gérant.
On a eu vraiment une cinquantaine, soixantaine de désistements depuis quelques jours. On a environ 50% de pertes. Et du coup, c'est un peu problématique pour la base au niveau des locations de canoës.
Mais cela n'empêche pas certains d'aller piquer une tête. Alors depuis trois jours, Frédéric Héningue, le maire de Pemmes, a multiplié les affichettes de prévention. Il se rend lui-même sur les points d'eau pour alerter les touristes, mais difficile de faire plus.
On a beau prendre tous les arrêtés du monde, c'est de la conscience individuelle, c'est le civisme, ça. Et ça, on est complètement désarmé pour tout. À part faire de la prévention, mettre des affiches, comme on a fait, téléphoner. On ne peut pas barrer tous les accès à la rivière, parce qu'il y en a beaucoup trop. On va barrer PEM non plus, donc voilà. C'est compliqué.
Mais à quelques kilomètres de là, à Marnay, on ne craint pas franchement de se faire contaminer. Jules et ses copains n'ont pas changé leur plan et sont allés faire une sortie en canoë.
Depuis petit, je me suis baigné dans l'oignon et j'ai pas trop peur des bactéries. Après, je me dis que c'est un risque, mais partout, on peut choper plein de maladies ou de bactéries autre part.
Et pour éviter toute contamination, la préfecture de Haute-Saône rappelle que la baignade doit se faire dans des zones surveillées.
7h38, le journal Alexis de Meyer. Alexis, les vacances du secours. Populaire.
L'association caritative recrute des familles d'accueil pour des enfants qui ne partent pas en vacances. Dans la Vienne, les Delaunay hébergent depuis vendredi dernier la jeune Aya, une Parisienne de 11 ans. Le reportage à Migné-Auzance, c'est près de Poitiers, est d'Isabelle Rivière.
Cette idée d'accueillir un enfant pour les vacances, Bérangère Delaunay y pensait depuis un moment déjà.
Ça fait 2-3 ans que je regardais un petit peu ce qui se faisait et j'avais pris contact l'année dernière avec le Secours Populaire. J'ai envoyé un petit mail par internet et puis après c'est eux qui m'ont recontacté. Je suis allée à une petite réunion en fait qu'ils avaient organisée pour expliquer comment ça allait se passer.
Guillaume, le mari, lui aussi avait commencé à y réfléchir.
Je trouvais que l'idée était chouette, mais ça demandait quand même un petit peu de réflexion. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est très courant en fait. Généralement les vacances, on les pense un peu pour du repos, pour soi, pour la famille.
Ambre, leur fille de 12 ans, elle a vite été emballée par le fait d'accueillir Aya.
Je suis très contente quand même parce que comme je suis fille unique, parfois je passe les vacances toute seule et on fait beaucoup plus de sorties et ça me permet d'avoir quelqu'un avec qui discuter, avec qui jouer aussi.
Et après des débuts timides, Aya a vite trouvé sa place et c'est en fonction d'elle aussi que la famille a concocté le programme des vacances.
Je voulais un peu visiter le Futuroscope ou des châteaux ou plein de choses comme ça et je voulais un peu aller à la piscine, enfin voilà, passer du bon moment.
Après une journée au Futuroscope, Aya et les Delaunay ont aussi prévu de faire de l'acrobranche à Diéné, d'aller se baigner sur l'île de Ré ou encore d'aller visiter les châteaux de la Loire en Touraine. Bref, de jolis souvenirs en perspective.
Le reportage d'Isabelle Rivière de France Bleu Poitou. Poitou. L'impressionnisme au féminin cet été au musée d'Orsay. L'exposition Berthe Morisot rassemble 70 toiles dont certaines n'ont pas été montrées au public depuis un siècle. Berthe Morisot qui fut d'abord modèle pour Manet, passant ensuite de l'autre côté du chevalet. Isabelle Pasquier.
Peinture charmante, ravissante, féminine. Voilà comment la critique à l'époque hyper masculine a longtemps qualifié le style de Berthe Morisot, sous-entendu naïf, bref, de seconde zone. Aujourd'hui, face à cette femme seins nus devant son miroir, devant la tristesse qui blanchit le visage d'une jeune fille au bal, on comprend que Berthe Morisot, pour chaque toile, se lance un défi, capter le temps, l'instantané par un geste vif, nerveux, totalement libre, jusqu'à ne pas finir la toile, une peinture mélancolique méditative. Alors on s'arrête devant une toile, c'est son mari Eugène Manet et sa fille Julie dans leur jardin. Sylvie Patry est la commissaire de l'expo.
Ce qui est vraiment fascinant dans ce tableau, c'est bon, à la fois évidemment le travail de la lumière. Eugène porte une veste blanche, elle reçoit toutes les couleurs parce que ce que Berthe Morisot veut traduire ici, c'est le côté très fugace, c'est cette rapidité du geste, comme s'il y avait une course contre la vie. Cette idée au cœur de la peinture de Berthe Morisot que l'art est vraiment en prise directe avec la vie et qu'elle doit en quelque sorte lui voler quelque chose de sa lumière, de son mouvement.
Cette exposition devrait combler un peu ce déficit de reconnaissance d'une de nos grandes femmes artistes. Et en pleine éco-anxiété, on aimerait tellement vivre dans les jardins, les paradis perdus, immortalisés par Berthe Morisot.
L'exposition Berthe Morisot, c'est jusqu'au 22 septembre au musée d'Orsay à Paris. Et puis les basketteurs français débutent leur préparation au mondial par un échec. L'équipe de Turquie s'est imposée 74-69 hier soir au Palais des Sports de Pau. Une défaite logique selon Vincent Collet, l'entraîneur des Bleus, qui concède qu'il y a encore beaucoup de travail avant le début du championnat du monde en Chine. Ce sera le 31 août.
C'était le journal d'Alexis de Meyer.